Et votre dans la prière. Voici le moment où tu nous appelles, Seigneur, à nous taire et à faire taire toute autre voix, afin, Seigneur, d'avoir une attention soutenue par rapport à toi, afin d'avoir une oreille ouverte, Seigneur, à ta voix et à ta voix seule. Ces moments que tu nous donnes, Seigneur, sont d'une importance vitale, car tu nous fais grâce. Tu nous accordes ce privilège, Seigneur, de nous asseoir humblement à des biais. Tu nous invites, Seigneur, à ta table pour que nous mangions, Seigneur, ta parole, car ta parole est une véritable nourriture pour nos âmes, pour nos esprits. Ta parole est cette manne vivante et vivifiante, Seigneur, qui descend du ciel. Et nous voulons, ô Dieu, profiter de l'occasion pour manger comme il faut cette nourriture que tu vas nous présenter d'un moment à l'autre. Merci pour tout, pour cet amour que tu as pour nous, car c'est par amour, Seigneur, que tu nous donnes de nous asseoir à ta table et de communier avec toi au travers de ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des cœurs ouverts à ta parole, des cœurs sensibles à ta voix, des cœurs perméables à ta pensée. Que tout ce que nous allons recevoir et qui vient de toi puisse trouver dans nos cœurs des très très bonnes dispositions. Que tout cela trouve un cœur fertile, Seigneur, pour accueillir, pour recevoir ta semence, et puis voir cette semence produire du fruit pour ta gloire. Merci de nous aider à grandir encore, Seigneur, dans notre marche avec toi et ce, ô Dieu, en grandissant dans la connaissance de ta parole. Bénis chacun de nous, bénis ton serviteur, et parle par lui, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Eh bien, nous allons revenir une fois de plus sur notre thème qui nous accompagne depuis de nombreux dimanches, depuis plusieurs semaines, à savoir la nécessité de comprendre, de connaître les Écritures en vue d'expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Connaître les Écritures, comprendre, mes amis, le message que la Bible véhicule, entrer dans la pensée du Père en se laissant ouvrir par le Saint-Esprit et en recevant sa parole. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Car comme nous l'avons vu la fois dernière, on peut avoir la parole de Dieu, la Bible, avec soi. On peut la lire, on peut même la méditer, mais sans jamais la comprendre, sans jamais, mes amis, recevoir la substance vitale, vivifiante qu'elle contient. Cette substance, cette vie divine dont nous avons besoin. Et gloire au Seigneur. Et nous allons donc continuer encore aujourd'hui avec la nécessité d'être pris en charge par tous ceux que le Seigneur a fait lever dans l'Église. Nous allons revenir une fois de plus sur l'importance de se laisser encadrer, de se laisser diriger, de se laisser conduire par des gens que le Seigneur a fait lever dans son Église pour pouvoir nous aider à avancer dans notre marche avec le Seigneur, allant de gloire en gloire. Car le but, ce n'est pas seulement de rencontrer le Seigneur, ce n'est pas seulement d'expérimenter la nouvelle vie. Le but, c'est que nous arrivions à nous devenions de véritables disciples du Christ. Alléluia. Que nous grandissions, que nous croissions à tous égards, que nous allions, mes amis, de gloire en gloire, afin de lui ressembler en tout. Gloire à Dieu. Nous allons lire cette fois-ci dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, c'est le dernier chapitre de Luc, le troisième évangile. Luc Chapitre 24, à partir du verset 13, nous lisons. Et voici que ce même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour où le Seigneur est ressuscité, voici que ce même jour, deux d'entre eux, donc d'entre les disciples du Christ, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 60 stades, à peu près 2 heures de marche, à peu près 11 kilomètres. Verset 14, ils s'entretenaient donc de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air triste, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour, que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques hommes, quelques femmes plutôt d'entre nous, nous ont étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils s'élevèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Ils racontèrent, dont les deux disciples d'Emmaüs, racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il avait reconnu à la fraction du pain. Amen. Gloire à Dieu. Une histoire extraordinaire qui commence par la tristesse, par le désespoir, par le désappointement, par le questionnement, voyez-vous, mais qui se termine, mes amis, de manière glorieuse, alléluia, par la lumière qui tout d'un coup va donc illuminer ces deux disciples du Christ qui avaient donc quitté ce jour-là Jérusalem pour se diriger donc vers le nord-ouest de Jérusalem, se diriger vers le village d'Emmaüs. Gloire à Dieu. Alléluia. Depuis quelques dimanches, nous essayons d'attirer notre attention sur l'importance, sur la nécessité, mes amis, de fréquenter, d'adhérer à une église bâtie, une église structurée sur le modèle du Nouveau Testament. Depuis plusieurs dimanches, nous cherchons, mes amis, à faire comprendre à chacun de nous combien il est important de pouvoir aller dans une assemblée, non pas seulement parce que cette assemblée s'appelle Église, de fréquenter une assemblée, non pas seulement parce que cette assemblée est dirigée par un prophète, par un évêque ou je ne sais par qui, mais nous devons comprendre qu'il est de notre devoir, qu'il y va de notre vie, même de notre éternité, de fréquenter une église qui est bâtie, non pas sur des structures religieuses, mais qui est bâtie sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia. Une église qui donc repose entièrement sur l'enseignement tel que les apôtres nous l'ont laissé. Mes amis, il est de la plus haute importance que tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout celui qui a rencontré Jésus, eh bien, et qui veut devenir disciple. Et ça, c'est l'attente du Seigneur par rapport à tous ceux qui le rencontrent. C'est-à-dire finir par devenir disciple. Oui, il est de la plus haute importance pour tous ceux-là. Tous ceux qui veulent croître à tous égards en Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, qui est le Seigneur des Seigneurs. Il est donc important pour tous ceux-là d'évoluer dans une assemblée où ils vont être pris en charge, où ils vont être guidés, où ils vont être accompagnés, mes amis, enseignés, nourris par des gens que le Seigneur a fait lever et des gens qui vont donc les instruire dans les voies du Seigneur, des serviteurs de la parole et de l'Église. Car tout ministère, quelle que soit sa nature, eh bien, doit amener les gens à être au service d'abord de la parole de Dieu, mais aussi au service de son Église. Amen. Et par rapport à cette prise en charge, qui est indispensable, qui est nécessaire pour une bonne croissance, mes amis, pour une bonne marche, une bonne croissance spirituelle, nous avons d'abord parlé de l'eunuque éthiopien. Nous avons examiné la vie de cet homme qui, tout en étant éthiopien, avait donc adhéré au judaïsme. Il était donc parti de son pays, l'Éthiopie, pour Jérusalem, afin de prendre part à des activités spirituelles. Et au retour, cet homme qui était ministre de son état, cet homme, eh bien, assis sur son char, la Bible nous dit que cet homme lisait le prophète Ésaïe. Il avait donc l'Écriture sainte avec lui. Il la lisait. Mais hélas, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Voyez-vous, jusqu'à ce que le Saint-Esprit envoie le diacre Philippe, c'est seulement par le diacre Philippe que cet homme va comprendre de quoi il était question dans le chapitre d'Ésaïe qu'il était en train de lire. Gloire au Seigneur. Donc, l'eunuque éthiopien a été aidé, a été guidé, a été accompagné par Philippe, qui lui-même avait bénéficié, nous l'avons vu la fois dernière, de l'accompagnement, de l'encadrement des apôtres, parce que Philippe, eh bien, a appartenu à l'église de Jérusalem, église dans laquelle les apôtres exerçaient leur ministère. Il a donc été encadré. Il a donc été accompagné, il a donc été instruit dans l'enseignement du Seigneur par les apôtres avant que le Seigneur puisse l'utiliser pour encadrer d'autres personnes, en l'occurrence l'eunuque éthiopien. Alléluia. Donc cette histoire illustre, mes amis, cette importance, cette nécessité d'être prise en charge, pas par n'importe qui se réclamerait du Christ, mais par des gens qui ont véritablement reçu un ministère de sa part. Alléluia. Ensuite, nous avons vu le cas d'Apollos. Apollos qui était un juif originaire d'Alexandrie. Un homme dont il est dit qu'il était éloquent, il était fervent d'esprit et versé dans les Écritures. De par son arrière-plan juif, cet homme, eh bien, connaissait les Écritures. Cet homme était très éloquent. Je vous ai dit la fois dernière qu'Alexandrie, à l'époque, était un grand centre de haute culture intellectuelle. Et là où les Grecs vivaient, là, eh bien, l'éloquence était enseignée, etc. Et cet homme donc connaissait tout cela. Il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Il avait donc cru en Jésus. Il avait été baptisé, immergé dans l'eau. Voyez-vous? Mais la Bible ajoutait qu'il ne connaissait que le baptême d'eau, c'est-à-dire le baptême de Jean. Il a donc dû être pris en charge, lui aussi, malgré son éloquence, malgré son érudition, malgré toute la connaissance qu'il avait des Saintes Écritures. La Bible nous dit qu'il lui manquait quelque chose. Et ce qui lui manquait, lui a été apporté par un couple de chrétiens, Aquila et Priscille. Ce sont donc eux, lorsqu'Apollos est arrivé à Éphèse, qui ont pris ce frère, après l'avoir entendu, ils se sont rendus compte qu'il était un frère qui connaissait beaucoup de choses à propos du Seigneur, mais qu'il lui manquait quelque chose. Ils l'ont pris, ils l'ont accompagné, ils l'ont aidé, et finalement, l'homme, ayant été équipé comme il faut, finit par partir à Corinthe, où il connaîtra un ministère de la parole très béni. Alléluia. Deux illustrations qui nous montrent que nous devons faire très attention par rapport à l'autodidaxie, le fait de pouvoir s'enseigner soi-même dans le domaine spirituel. Nous avons besoin d'être pris en charge. Et pour cela, nous devons réaliser l'importance, nous devons réaliser la nécessité, mes amis, d'appartenir, d'adhérer, d'évoluer dans une église bien structurée, où la parole de Dieu est enseignée comme il faut, où la parole de Dieu occupe la première place, et non pas, des fables habilement conçues pour distraire le gens. Voyez-vous, comme nous l'avons vu, et vous le savez tous, si vous allez dans notre ville de Kinshasa, dans certaines assemblées, eh bien vous auriez l'impression d'être dans un spectacle ou d'assister à un spectacle du rire. Voyez-vous? Donc nous devons faire très attention. Et aujourd'hui, eh bien nous allons continuer dans la même pensée et voir une fois de plus combien il est important, combien il est vital de se laisser guider, encadrer en ce qui concerne la connaissance des Écritures et l'expérimentation de la puissance de Dieu. Nous allons donc parler de deux disciples d'Emmaüs qui, eux aussi, ont eu besoin, mes amis, d'être guidés, d'être aidés, afin qu'ils comprennent les Saintes Écritures, alors même qu'ils avaient été témoins des événements qui s'étaient produits à Jérusalem, c'est-à-dire l'arrestation, le jugement injuste, la condamnation, la crucifixion, la mise à mort, et la mise au tombeau du Seigneur. Ils avaient été des témoins. Et en plus, ils connaissaient bien les Écritures, et ce de manière intellectuelle, hélas, puisque c'était des Juifs. Eux aussi ont eu besoin d'être accompagnés, voyez-vous. Et eux, ils ont eu une grâce particulière d'être enseignés par le Seigneur lui-même. Alléluia, gloire à Dieu. Les disciples de Emmaüs, tout en étant disciples, ils avaient besoin d'être enseignés. Ils avaient besoin que le Seigneur ouvre leur intelligence. Ils avaient besoin que le Seigneur puisse les aider à comprendre les Saintes Écritures. Les deux précédents cas, c'est-à-dire l'eunuque éthiopien et Apollos, avaient été pris en charge par des hommes, certes, que le Seigneur avait appelés, qu'il avait préparés et tout ça. Mais ici, Cléopas et son compagnon ont été pris en charge, ont été guidés, ont été encadrés, mes amis, par le ressuscité du troisième jour. Quelle grâce, alléluia, quelle grâce. Alors, attardons-nous un tout petit peu sur cette histoire merveilleuse de ces deux témoins, de ces deux disciples du Christ, Cléopas et son compagnon et son ami. Les événements se sont déroulés à Jérusalem. Nous sommes le premier jour, mes amis, premier jour de la semaine. Donc le jour où le Seigneur est ressuscité, tout a été accompli à la perfection. Alléluia. Il est mort comme il avait dit lui-même, le Seigneur. Il est mort comme l'Ancien Testament l'avait prédit. Il est ressuscité comme lui-même l'avait dit. Il est ressuscité comme l'Ancien Testament l'avait prédit. Et tout cela au premier jour. Tout cela un dimanche comme aujourd'hui. Voyez-vous? Et les voilà donc, ce jour-là, ces deux disciples, Cléopas et son compagnon, quittent Jérusalem. Ils se dirigent vers Emmaüs, vers au nord-ouest de Jérusalem, à 11 kilomètres, donc à peu près à 2 heures de marche, ce jour-là. Et pendant qu'ils cheminaient, pendant qu'ils se rendaient à Emmaüs, nous l'avons lu, la Bible nous dit que ces deux amis, ces deux disciples, eh bien, s'entretenaient, conversaient entre eux à propos de ces événements qui s'étaient produits à Jérusalem. Ils ne parlaient pas des événements sportifs, ils ne parlaient pas de tel ou tel autre événement politique, de telle ou telle autre décision du Sanhédrin, pas du tout, mais des événements qui s'étaient produits là à Jérusalem et qui avaient marqué l'histoire de cette ville. Et par-delà l'histoire de cette ville, l'histoire même du peuple juif. Et pendant donc qu'ils sont en train de faire route, voilà que quelqu'un, c'est-à-dire le Seigneur, qui s'approche d'eux. Si l'histoire biblique s'arrêtait là, et qu'il nous avait été demandé de nous imaginer un peu la suite, de nous dire... La réaction, c'est que fut la réaction de ces deux disciples quand Jésus s'approche d'eux et que la Bible se serait arrêtée là. Je crois que nous aurions spéculé, nous aurions dit oui, c'était des disciples. Ils se sont certainement jetés aux pieds en disant « Seigneur, merci, nous avons laissé nos amis à Jérusalem ». Et voilà, tu nous aimes, tu viens, tu t'apparais à nous, nous t'adorons, etc. Mais la Bible ne dit pas ça. Il s'approche d'eux, il les entend parler, discuter, s'entretenir, converser. Mais la Bible ajoute, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, alléluia. Tout en posant leur regard, sur le Seigneur, eh bien, ils n'ont pas pu le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. C'était les yeux de la chair. Mais leurs yeux du cœur étaient complètement fermés. Il fallait donc que leurs yeux s'ouvrent pour qu'enfin qu'ils puissent voir que celui le ressuscité du troisième jour, celui le sauveur bien-aimé, celui qui avait dit qu'il allait mourir, mais qu'au troisième jour, il allait ressusciter, et nous étions au troisième jour. Alors un de deux, Cléopas, et le Seigneur, voilà donc, il leur pose cette question, mais quels sont ces propos que vous échangez en marchant? De quoi parlez-vous? Ah, Cléopas regarde le Seigneur, il est étonné qu'on lui pose une telle question. Alors ils disent au Seigneur, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas, écoutez bien, qui ne sache pas ce qui se produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant les hommes et devant Dieu, et comment, ajoute-t-il, comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et crucifié. Le Seigneur les écoute, hein. Il parle et il continue. Nous espérions que ça serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Ils sont donc complètement désespérés. Ils sont donc complètement désappointés. Ils avaient cru en lui. Ils avaient vu en lui la réalisation de la promesse messianique. Dieu avait promis à Israël qu'il lui enverrait un Messie. Et Cléopas et son ami, comme tant d'autres, les apôtres et tant d'autres disciples, avaient fini par croire que Jésus était le Messie promis. Voyez-vous? Et ils étaient contents de vivre cette période de l'histoire d'Israël, que les apôtres, plutôt que les prophètes, que les auteurs de l'Ancien Testament avaient seulement contemplé au loin. Et beaucoup d'entre eux, beaucoup de prophètes ayant reçu, mes amis, des visions concernant cette période qui verrait le Messie venir sur cette terre, avaient souhaité, avaient espéré vivre, expérimenter ce moment, mais n'ont pas pu. Mais eux, ils ont eu la grâce de vivre ce moment, de croire en Jésus-Christ, de le suivre, de boire sa parole, l'entendre dire à plus d'une fois qu'il allait mourir et ressusciter au troisième jour, qu'il était venu pour délivrer les captifs, qu'il avait paru afin de détruire les œuvres du diable. Ils l'avaient entendu et ils avaient adhéré à son enseignement et ils avaient cru en lui. Et puis les événements se déroulent comme le Seigneur l'avait prédit et comme les prophètes avant lui l'avaient déclaré. Mais seulement nos deux disciples sont restés complètement fermés à tout cela, à la réalisation. Voyez, comme je le disais, ils sont désemparés. Ils sont dans le désespoir le plus total, désappointés. Ils croyaient que Jésus venait comme libérateur politique et militaire, pour libérer Israël du joug terrible des Romains, pour débarrasser Israël de tous ceux qui ne croyaient pas en Yahvé. Ils avaient espéré. Mais voilà, quelques jours auparavant, il avait été arrêté, jugé injustement, condamné, crucifié, mort, et sa dépouille, son corps, avait été déposé dans un tombeau. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. N'avait-il pas dit, eux n'avaient-ils pas entendu qu'il avait dit qu'il mourrait et qu'au troisième jour il ressusciterait? C'est pas parce qu'il n'avait pas encore vu que la résurrection n'avait pas eu lieu. Voyez-vous? Et puis, non seulement ça, ils ajoutent en disant, il est vrai que quelques femmes d'entre nous, oui, quelques femmes, surtout à cette époque-là où on avait une vision un peu très humiliante de la femme, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fait étonner. Elles nous ont raconté qu'elles avaient été au cimetière, qu'elles avaient vu son tombeau vide, et que des anges leur avaient apparu pour leur dire que Jésus était vivant. Et ces femmes sont venues nous rapporter cette bonne nouvelle. Ce sont eux qui racontent, hein. Voyez? Ils n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire que les anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il était vivant. Et puis ensuite, quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Donc tout était là pour que nos deux amis croient. Il n'y avait pas que le témoignage des femmes. Il y a eu aussi Simon, Jean, si vous lisez Jean, qui sont venus aussi raconter, soutenir le témoignage des femmes. Mais lui, ne l'ont pas vu. C'est là que le Seigneur va réagir, va rebondir. Il va s'adresser à eux en leur disant, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent, lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Voyez-vous, ces gens connaissaient les Écritures. Ils savaient, ils étaient informés, ils étaient au courant des déclarations prophétiques sur la venue du Messie, sur son œuvre expiatoire et rédemptrice, donc sa mort, mais aussi sa résurrection. Mais malheureusement, leur intelligence était obscurcie. Leur cœur était incrédule. Leur cœur était complètement plongé dans le noir du scepticisme et du doute. Et le Seigneur leur dit, mais le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte comme il a souffert et entrer dans sa gloire? Ils sont là, en train de l'écouter. Il est là devant eux. Et la Bible est ajoutée au verset 26, à partir du verset 27, donc 26-27, et commença par Moïse, écoutez bien, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Alléluia. Il commence par Moïse, parce que ce Jean avait eu l'occasion de lire, d'entendre des commentaires sur le livre de Moïse, d'entendre, de lire, d'écouter, eh bien, les scribes, les rabbins dans les synagogues lire des passages prophétiques en rapport avec la venue du Messie. Il leur expliquera, à partir de Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Vous voyez, mes amis, même le Seigneur lui-même les a renvoyés où c'est? À la parole de Dieu. Il les a renvoyés aux Saintes Écritures parce que les Saintes Écritures parlent de lui. Il est le cœur de la Bible, Jésus-Christ, alléluia. Il est la pierre angulaire sur laquelle la Bible repose. La Bible a été écrite pour nous révéler la personne de Jésus et son œuvre expiatoire à Golgotha. Il les renvoie vers Moïse, vers les prophètes. Et quand ils arrivent près du village, où ils allaient donc près d'Emmaüs, le Seigneur parut vouloir aller plus loin. La Bible nous dit, mais nos deux amis, nos deux compagnons, le pressèrent de rester avec eux. Alléluia. Quelle sagesse. Ça, c'est la prière que nous devrions tous faire. Seigneur, reste avec moi. Quelles que soient les circonstances. Voyez-vous, il dit, reste avec nous, car le soir approche, le jour est en son déclin, nous avons besoin de toi, reste avec nous. Et le Seigneur va rester avec eux, alléluia. Et là, Jésus entre avec eux dans la maison pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, quelque chose va se passer. C'était le soir, c'était peut-être le moment de prendre leur souper. Eh bien, le Seigneur prend du pain. Il prend du pain, il dit la bénédiction, puis il prend le pain, il le rompt. Et il le leur donne. Et à ce moment-là, la Bible nous dit leurs yeux s'ouvrirent. Ils avaient déjà eu l'occasion de le voir faire ça. Alléluia. Ils savaient toute l'importance de la Sainte Cène. Et voilà qu'il fait ça, et juste au moment où il fait ce geste, leurs yeux s'ouvrent, et ils le reconnurent. C'était lui le ressuscité du troisième jour. C'était lui l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Il est donc bien vivant. C'est vrai, les femmes avaient raison. Le tombeau était vide. C'est lui, le Seigneur de gloire. Oh, alléluia. Juste au moment où ils le reconnaissent, le Seigneur disparaît. Il est parti. Il se retrouve seul. Que faire? Eh bien, écoutez leur réaction. J'aime beaucoup ce passage. Leur réaction. Ils se disent, ils se regardent. Cléopas regarde son ami dont le nom n'est pas mentionné. C'est pas important. Tous les deux se regardent. Se disent ceci, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Oh, alléluia! Jusque-là, les Écritures leur étaient fermées. Il a fallu que le Seigneur vienne, qu'il puisse leur expliquer pour qu'enfin des Écritures jaillissent la vie divine. Que le feu sorte des Écritures, les embrase, consume leurs doutes, leur scepticisme, leur incrédulité. Il a fallu que lui ouvre les Écritures Et là, le feu en est sorti. Et comment retenir un tel feu? Non, nous devons repartir. Après avoir marché 2 heures, il n'y avait pas de Wewa à l'époque, il n'y avait pas de taxibus, rien du tout. Hein. Après avoir marché pendant 2 heures, et arriver à destination, et faire cette expérience extraordinaire avec le Seigneur, eh bien, les voilà qui prennent la résolution de retourner à Jérusalem, de reparcourir le même chemin, de faire encore 2 heures de plus pour aller trouver les autres disciples, leur dire, oui, nous l'avons vu. Et pendant qu'ils déclarent, on leur dit, mais Simon l'a vu, alléluia. Nous avons le témoignage que notre Seigneur est bien ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il est impossible que la mort le retienne. Gloire à Dieu. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Les voilà qui deviennent des témoins. Oh, je suis convaincu que plus tard, ces 2 disciples se sont mis à enseigner la parole de Dieu aux Juifs en disant, oui, vous avez la Torah, mais la Torah parle de lui. Vous avez les prophètes parlent de lui. C'est de lui dont il est question à travers toute l'Écriture. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en chemin lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Littéralement, au verset 32, écoutez ce que les 2 disciples disent. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsque nous parlions en chemin et nous ouvraient les Écritures? C'est le verbe ouvrir qui a été traduit dans nos versions par expliquer. C'est plus qu'expliquer. Le Seigneur a ouvert les Écritures. Leur cœur était fermé aux Écritures, alléluia. Ils la lisaient, mais de manière intellectuelle. Ils avaient acquis une connaissance cérébrale. Ils avaient acquis une certaine connaissance intellectuelle. Mais leur cœur, comme lui-même leur a dit, leur cœur était fermé. Et leur intelligence, mes amis, obscurcie. Jusqu'à ce que lui, la lumière du monde, jusqu'à ce que lui, le Seigneur de gloire, lui l'enseignant des enseignants, lui le docteur par excellence, ouvrait les Écritures. Et quand il a ouvert les Écritures, eh bien, la vie en a jailli. Cette vie qui va finir par embraser leur cœur. Tout leur cœur était en flamme. Tout leur cœur était embrasé. Cette fois-ci, ils se sont dit, il est réellement ressuscité. Et nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle. Nous devons retourner à Jérusalem et aller la partager aux autres. Mes amis, avant de terminer, puisque nous continuerons plus tard avec la puissance, puisqu'il a le reproche que le Seigneur a fait aux Sadducéens, c'était de ne pas connaître les Écritures, mais aussi la puissance de Dieu. Nous reviendrons sur cette notion de la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons terminer avec la nécessité d'être pris en charge par ce que le Seigneur a établi, mais par-delà ce que Dieu a établi, d'être pris en charge, d'être guidé par lui-même. Alléluia. Oui, par-delà les hommes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous encadrer, qui peuvent nous guider, mes amis, pour nous permettre de comprendre les Écritures, il y a le Seigneur lui-même. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous devons avoir une relation vivante avec lui. Nous devons avoir une intimité avec lui, mes amis, pour qu'il puisse ouvrir les Écritures pour nous à chaque fois que nous prendrons la Bible pour la lire et la méditer. C'est pourquoi nous ne cessons de vous encourager à prier avant de vous mettre à lire et à méditer la parole. Il faut que lui, par son Saint-Esprit, ouvre notre cœur pour qu'enfin nous puissions comprendre les Saintes Écritures. Alléluia. Et gloire à Dieu. Quand lui ouvre les Écritures, alors la vie en jaillit. Alors la force de Dieu en jaillit et nous embrase de son feu puissant, de son feu purificateur. Oui, nous aurons toujours besoin, mes amis, des autres pour nous permettre de comprendre la parole de Dieu, des pasteurs. Nous aurons besoin des différents ministères que le Seigneur a donnés à l'Église pour nous amener à connaître le Seigneur à la plénitude de sa connaissance. Oui, nous aurons toujours besoin de ces différents ministères, mais il faut, mes amis, que nous arrivions à un moment de notre vie, dans notre marche spirituelle, où le Seigneur lui-même nous parle à travers la parole de Dieu, alléluia. Ou lorsque nous ouvrons nous-mêmes la Bible, eh bien que nous nous mettons à lire, à la méditer, eh bien nous entendons Dieu nous parler au travers de la parole de Dieu. Voilà ce en quoi nous devons tendre. Pas seulement être là et s'attendre à ce que les autres nous nourrissent. Oui, les autres font ça, mais ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que nous arrivions à un point où nous réagissions comme les deux disciples d'Emmaüs. Mon cœur n'a-t-il pas brûlé au-dedans de moi lorsque je lisais ce passage d'Ésaïe, lorsque je méditais dans le livre de Romains? Mon cœur n'a-t-il pas été bouleversé par la vérité que j'ai lue dans les évangiles? Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alléluia. Alors, développons cette habitude, plus que sans gré, de lire régulièrement la parole de Dieu. Imposez-vous ces disciplines, voyez-vous, de méditer la parole de Dieu, de ne pas seulement vous contenter des prédications que nous vous apportons dimanche après dimanche, des enseignements de la parole le mercredi ou alors à certaines réunions dans le cadre de dames, de jeunes, de l'écodime, etc. Il faut que vous-même, vous vous imposiez ces disciplines. Voilà, bientôt, c'est la fin de l'année, de cette année 2021, et la nouvelle année se pointe à l'horizon, et je voudrais qu'avec cette nouvelle année, que chacun de nous prenne cette résolution de se dire, Seigneur, je voudrais dès le premier jour de cette nouvelle année me mettre à lire ta parole afin qu'au 31 décembre, eh bien, que j'aie terminé, que j'aie lu toute la Bible. Vous allez voir combien c'est merveilleux. Alléluia. Vous savez, l'amour des Écritures se développe au fur et à mesure que vous la lisez. Oui. Si vous attendez qu'un ange vous parle, vous attendrez longtemps. Décidez. Aujourd'hui, je commence. Avec les quatre évangiles. Voilà, il nous reste quoi? Il nous reste 11 jours. C'est ça, hein? 11 ou 12 jours, à peu près. Vous savez, en 12 jours, vous pouvez terminer les quatre évangiles, hein? Vous savez ça? Vous savez ça? Oui, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable, hein? Vous avez Matthieu 28 chapitres. Vous arrivez à Marc, c'est 16. Vous arrivez à Luc, c'est 24. Vous terminez avec Jean, c'est 21. C'est pas beaucoup, hein? Voilà. Si vous prenez seulement 2 heures par jour, c'est merveilleux. Vous vous isolez. Vous oubliez tout. Vous fermez votre smartphone. Fermez votre iPad. À moins que vous ayez la Bible sur votre iPad, mais le risque est grand. Parce que sur votre iPad, vous avez autre chose, oui ou non? Oui ou non? Ou sur votre smartphone, pendant que vous lisez, tip, hein, la petite sonnerie là, hein, pour te dire qu'il y a un message, et puis vous arrêtez. Non, prenez la Bible, lisez, vous allez voir. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà, donc nous terminons avec la nécessité d'être encadrés, accompagnés, guidés par les autres, et ultimement guidés par le Seigneur lui-même. Je voudrais que nous puissions prendre un petit moment dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Je veux dire merci pour cette invitation, Seigneur, à grandir, à croître dans ta connaissance et dans ta grâce. Nous avons besoin d'être pris en charge par ceux et celles que tu as établis dans l'Église, par ta volonté pour chacun de nous, c'est que nous puissions grandir. Nous puissions, Seigneur, croître en tous égards, nous puissions aller, ô Dieu, de gloire en gloire au niveau de la connaissance de ta parole, au niveau des Saintes Écritures. Ta volonté, c'est que nous puissions nous laisser instruire, mais aussi au-delà des hommes qui nous instruisent, tu veux que nous-mêmes nous arrivions à un point où, Seigneur, nous passons du temps avec toi, où nous recevons, Seigneur, ta pensée lorsque nous méditons ta parole. Aide-nous à grandir. Suscite en nous la soif de ta présence, mais aussi la soif, la faim de ta parole. Que nous soyons des hommes et des femmes de la parole. Seigneur, imprégnés de ta pensée. Oh, merci pour tout. Merci de nous aider dans ce domaine-là. Merci, Seigneur. Nous voulons aussi te recommander, Seigneur, ce moment que nous voulons consacrer au Dieu à la collecte des dîmes, offrandes et de toute autre libéralité. Merci pour cette grâce, Seigneur, de t'exprimer notre amour en te donnant ce qui t'est dû, mais aussi en soutenant ton œuvre ici à la borne et à travers la borne. Bénis ces paniers alors qu'ils vont circuler à travers la salle, mais également tout autour de la salle. Nous te le demandons, Seigneur, en ton nom. Amen. Et gloire à Dieu. Alléluia.